Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi et aujourd'hui nous allons nous interroger sur la généralisation des concours, des compétitions, des classements internationaux. Qu'il s'agisse des concours aux grandes écoles en France ou de tests pour entrer dans une des meilleures universités américaines, mais aussi des concours généralisés pour entrer dans la fonction publique. Et même côté divertissement, il y a ces compétitions à la télé, pour la cuisine, pour la chanson, des domaines qui n'ont jamais été inventés pour cela précisément. Alors, contrairement au foot, hein, par exemple, le monde est-il devenu fou de concours? Est-ce finalement la seule preuve de mérite et de justice sociale? À l'heure de l'économie numérique, des start-up, faut-il préparer les jeunes à dépasser les autres ou plutôt à travailler ensemble pour être plus innovants? Peut-être que les deux ne sont pas incompatibles. On va en discuter en tout cas avec nos invités. Bonjour Annabelle Alouche.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'université de Picardie Jules Verne et vous publiez La société du concours, l'empire des classements scolaires aux éditions du Seuil. Bonjour Valérie Gauthier.
Bonjour.
Vous êtes également avec nous, vous êtes professeur à HEC Paris. Vous enseignez le savoir relié vers un leadership intuitif et relationnel, qui est aussi le titre de votre livre paru chez Erol. Vous êtes aussi spécialiste du travail collaboratif et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence, que nous remercions bien sûr. Frédéric Ojardias à Séoul nous racontera tout à l'heure la Corée du Sud, version concours partout, y compris pour être recruté dans de grandes entreprises privées. Et donc ensuite faire un beau mariage, oui. Quel est le lien? On le découvrira. Et quant à vous, les voisins, racontez-nous vos expériences respectives de concours et aussi dans le monde professionnel de compétition. Quand est-on le meilleur? À plusieurs ou seul? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous vos messages. Sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de messages pour un sujet que je ne pensais pas finalement concerner autant de monde. Hercy est à Cotonou, au Bénin, et il nous dit, si vous avez un meilleur moyen pour savoir qui sont les meilleurs et donc les plus méritants dans une société, un moyen autre que la compétition, alors je suis tout oui. Bah, Annabelle vous ferait des propositions, bien sûr, hein, en tant qu'universitaire qui publiait La Société du Concours. Guy Martial à Lyon, en France, nous dit que la concurrence est bien parce qu'elle permet aux compétiteurs de mettre tous les moyens en jeu pour réussir. Et au Cameroun, il déplore que les jeunes n'aient pas cet esprit de challenge entre eux. Miguel à Brazzaville au Congo, les concours ne sont que façades, nous dit Miguel. Les jeux sont joués d'avance. Les uns ont déjà leur nom dans la liste des admis pendant que d'autres souffrent pour l'avoir. Ça ne donne même pas le goût de les faire, ces concours. Corruption et népotisme. Une voisine, Afi, à Kinshasa, dans l'autre Congo. Depuis mon enfance, moi j'ai toujours voulu passer des concours. Chose qui a été faite, celui qui a de la matière, qui a un produit à vendre, n'aura jamais peur du concours, car c'est un espace qui nous permet de sortir du lot ou de comprendre ce que nous possédons comme talent. Bienvenue est au Sud Kivu également, en RDC. Moi, je suis pour la compétition à condition qu'il y ait égalité des chances pour tout le monde. La couleur de la peau, la langue, la tribu, l'ethnie ou pire encore, être fils ou fille d'eux ne doivent pas entrer dans les critères. Pierre-Jules, lui, est en Haïti. Je suis passionné par les concours, nous dit Pierre-Jules. Les compétitions développent mes capacités intellectuelles, rendent plus optimiste pour faire plus de recherches et pour faire face à vos adversaires. Alors appelez-nous maintenant les voisins au 33 1 84 22 71 71 et les voisines bien évidemment.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Valérie Gauthier, qu'est-ce que vous pensez de tous ces témoignages? Ils vous surprennent? Vous qui enseignez souvent sur le continent africain.
Oui, non, ils ne surprennent pas du tout, en fait. Je pense que la notion de compétition est quelque chose qui est monnaie courante aujourd'hui. Ça peut être pour certains stimulant, pour d'autres, au contraire, ça peut être décourageant. L'esprit de compétition est quelque chose qu'on a en soi, parce qu'on a toujours besoin de se comparer, mais aussi on a besoin d'appartenir. Et le sentiment de rejoindre une communauté en se confrontant aux autres est une façon aussi d'exister. Donc ça ne me surprend pas du tout.
Un peu comme si c'était devenu un outil de développement personnel, finalement.
Oui, tout à fait. Les formes de compétition qu'on voit, qui sont d'ailleurs en sport également, c'est un milieu intéressant pour étudier la compétition, qu'elle soit en sport individuel ou en sport collectif, c'est une façon de se mesurer, mais aussi de se mesurer à soi. Tout mon travail repose beaucoup sur une façon de mieux se comprendre soi-même et de réfléchir sur soi. Et finalement, on s'aperçoit que le regard de l'autre, la confrontation à l'autre, est aussi une façon d'évoluer et de mieux se connaître soi-même.
Et pour vous, Annabelle Alouche ?
Je suis d'accord sur le fait que le concours marque, ou la mise en compétition marque le sentiment, ou donne à l'individu le sentiment d'appartenance à un collectif. C'est ce que j'appelle en fait un sentiment d'élection. On a le sentiment qu'une institution ou qu'un collectif reconnaît notre valeur et notre juste valeur.
Ouais. Quand on a réussi le concours, précisément.
Quand on a réussi le concours. Et c'est ça qui donne la force, une force telle à cette forme très particulière du concours, malgré le fait qu'elle soit éminemment critiquable d'un point de vue des inégalités sociales qu'elle crée. Elle donne à l'individu qui réussit un sentiment d'élection, un sentiment de reconnaissance. Et j'ai beaucoup d'auditeurs, de lecteurs, de personnes qui viennent me voir dans la rue, qui m'envoient des mails et même des courriers en me racontant leur histoire et en me disant, ben voilà, le concours, vous avez raison de le critiquer parce que moi, je n'ai pas été élue. Et donc, du coup, toute ma vie, je me suis sentie rejetée par l'institution. Et là, vous avez un excellent exemple de la force, à mon avis, exorbitante, c'est-à-dire trop forte, de quelque chose qui ne relève finalement que d'une épreuve scolaire, et une épreuve scolaire parmi tant d'autres.
Et à l'inverse, Valérie Gauthier, vous qui enseignez à HEC, l'une des écoles de commerce, grandes écoles de commerce en France, une des plus sélectives, les plus difficiles, il y a parfois des étudiants qui ont réussi le concours, qui sont déçus en arrivant dans l'école, dans cette école-là ou une autre, et du coup, d'ailleurs, qui se disent « mais en fait, j'ai fait tout ça, pourquoi ?» et qui sombrent dans une forme, ça n'est pas rare, après tant d'efforts, deux années de travail acharné, de sombrer dans une forme de petite dépression, ça peut arriver, non, Valérie Gauthier, quand on déprécie soi-même ce que l'on a réussi.
Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs éléments qui factorisent cette question de tension qui est réduite quand on a passé l'examen et qu'on a réussi le concours. D'une part, le fait du choix, c'est-à-dire que le parcours par lequel les jeunes passent en classe préparatoire est pas forcément une question de choix délibéré, parce que la France et le système français fait que les choix sont extrêmement tôt et qu'on n'est pas forcément assez mûr pour prendre les directions et les choix qui nous amènent vers ces concours. Donc une fois que le concours est passé, la pression retombe, l'intensité du travail qui a mené à ce résultat retombe, un peu finalement quand on finit un tournoi de tennis qu'on a gagné, là il y a tout qui retombe, donc ça c'est normal, mais il y a aussi cette question du pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que je suis là, donc tout ce questionnement et cette capacité à se remettre en question qui n'a pas lieu d'être en amont des concours et qui atterrit finalement une fois qu'on y est, toutes les questions remontent, et c'est pour ça que la notion d'introspection et de réflexion sur soi est un élément absolument prioritaire et clés qui devraient émerger dès l'adolescence pour qu'on puisse prendre du recul par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie.
Ce phénomène de dépression, c'est quelque chose effectivement que j'ai rencontré dans mes études de terrain dans les écoles de commerce, dont HEC, puisque j'ai aussi travaillé sur HEC, parmi d'autres très grandes écoles de commerce françaises. Mais ce symptôme de dépression existe aussi évidemment aux États-Unis. Il est en France lié à la prépa, à la classe préparatoire aux grandes écoles, donc qui arrive avant la grande école, où on apprend à valoriser le concours, le classement perpétuel et donc la lutte de tous contre tous, si j'ose dire. Alors, il y a des limites à ça. Certes, il peut y avoir des phénomènes de solidarité entre les élèves, mais en tant que sociologue, ce que j'ai vu, c'est que c'était souvent des solidarités qui se formaient autour, si j'ose dire, de même type d'appartenance sociale ou de genre, évidemment. Ce qui est très intéressant, c'est justement l'arrivée dans la grande école et à quel point pour certains élèves, par exemple des élèves issus de filières plutôt littéraires ou intéressés par des disciplines comme les SHS, à quel point ils peuvent être désappointés ou désorientés par rapport à l'éthos de l'institution et à quel point on les pousse vers un certain type de métier ou un certain type de logique professionnelle qui ne correspondent pas forcément à ce qu'ils ont appris en prépa. En prépa, c'est un travail extrêmement académique. On arrive en école de commerce à quelque chose de beaucoup plus professionnalisant et ça peut être effectivement un choc pour un certain nombre d'étudiants.
Chips et télécommande, je me demande, Nikos, en vrai, il est comment? Cet inconnu devient quelqu'un le temps d'une fausse note. Et au prix de quelques larmes versées aura gagné leur vote. La dépression est de bon ton, maman est fière de son fiston qui a chanté l'envie d'aimer sans écart d'un demi-ton. Le guitariste donne tout, mais sa gratte n'est pas branchée. Et je me rends compte que dans ce morceau, y a que du clavier. Un duo commence, elle oublie texte et mélodie. Personne n'y voit que du feu et tout le public applaudit. Comme toujours l'épilogue idéal. Moi aussi je veux vivre dans un catalogue Ikea. Je suis scotché car au fond c'est con me donne de l'espoir. Je me dis que je sais rien faire mais que ça empêche pas d'être une star. À quand la gloire, l'Oscar pour mon rôle d'anonyme. Voici mon pseudonyme.
I'm Mr. No.
Je suis Monsieur tout le monde.
Annabelle Allouche, vous commencez votre livre avec cette première phrase. Il existe un point commun entre l'école polytechnique et l'émission de télévision culinaire Top Chef, que beaucoup d'auditeurs connaissent. Alors justement, nous on est allé au cœur d'une fabrique de jeux compétition télévisée, la société Fremantle Media France, qui produit les émissions La France a un incroyable talent, Question pour un champion ou encore Nouvelle Star, qui est un concours musical dont la 13e saison vient de s'achever. Charlie Dupiot a rencontré Monica Galère, la présidente du groupe.
Nous y sommes au terme de 3 mois de compétition. On va enfin savoir qui vous avez désigné vainqueur. Ils sont encore deux à pouvoir croire au titre. Qui va l'emporter?
Le télécrochet est à la base le radiocrochet qui a fait les beaux jours de la radio. On vit dans une société compétitive où les gens ont envie de gagner ou de perdre et de rêver surtout à gagner, où il y a les loteries qui ont un succès fou, la loterie aussi, il y a un gagnant et beaucoup de perdants.
Et qu'est-ce qui, selon vous, plaît au public dans des émissions où on a des compétitions comme ça qui sont mises en scène, qui sont télévisées?
Qu'est-ce qui plaît? C'est le jeu. Le jeu, c'est quelque chose qui est inhérent à notre société, aux familles, aux enfants, aux gens. Qu'est-ce qu'ils font les enfants à la récréation? Ils jouent. Et quand ils jouent, à quoi qu'ils jouent, il y a un gagnant et plein de perdants. Je pense que c'est inhérent à l'être humain.
Et donc ça se retrouve à la télévision en fait.
Bien sûr, oui. Qui est un instrument qui prend la moyenne la plus large possible pour proposer des choses de façon à ce qu'on ait le plus de téléspectateurs possible.
Yadam et Xavier, vous avez été l'un et l'autre. Magnifique, talentueux, humble, je le répète. Vous avez réalisé un parcours fantastique, vous avez brillé, douté parfois, mais vous avez toujours su rebondir pour toucher maintenant votre rêve du doigt.
Alors par exemple, pour parler d'un programme précis comme Nouvelle Star, qui est un de vos programmes phares, et on peut s'identifier aussi au candidat, on va souvent soutenir un candidat, avoir envie de voter pour lui.
C'est pas la même chose que s'identifier à un candidat que de soutenir un candidat. Vous savez, moi, j'aime beaucoup Nouvelle Star, aller partout chercher des gens qui pourraient avoir du talent. Beaucoup ont du talent que pour une chanson, il y en a qui ont plus de talent que ça. Nouvelle Star réalise des rêves. C'est des gens jeunes, généralement, qui ont l'ambition de chanter et on leur donne la possibilité d'essayer. Mais je ne pense pas que c'est la force du jeu qui fait que ce programme intéresse le public.
Alors, qu'est-ce qui intéresse le public dans ce programme ?
Ce qui intéresse le public, c'est le donner à des jeunes la possibilité d'accéder à leurs rêves.
Mais sauf que c'est que quelques personnes, finalement.
C'est une. Et la Nouvelle Star, c'est là où ça devient une compétition entre ce groupe de jeunes.
Donc là, on est vraiment dans Nouvelle Star, dans la compétition pure et dure.
Enfin, absolument, oui. Pour moi, oui.
Annabelle Alouche, alors je vous repose la question, quel est donc le point commun entre ces émissions et les concours aux grandes écoles en France, puisque vous citez Polytechnique notamment?
Alors c'est évidemment la mise en compétition généralisée et la volonté de se voir reconnaître un talent, une valeur, un mérite, quel que soit le nom qu'on lui donne, par une institution ou par un collectif, y compris par un collectif de téléspectateurs. Pour réagir au reportage qui était passionnant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la personne qui intervenait. Je pense que ce qui se joue dans la télé-réalité, en particulier dans les télécrochets, la Star Academy, la Nouvelle Star, etc., c'est vraiment, si j'ose dire, une appétence aussi pour la mise en scène de l'effort, de la souffrance, une forme de souffrance sociale qui justifie finalement le mérite. Et c'est ça, en fait, le point commun, le deuxième point commun entre Polytechnique et la Nouvelle Star, c'est non seulement la mise en concurrence, la compétition et la recherche de reconnaissance, mais c'est aussi la mise en scène de cet effort ascétique qui est posé comme une valeur ultime dans les sociétés contemporaines. Donc, reconnaissance de l'effort ascétique, mais aussi mise en scène de la souffrance sociale. Il y a, dans toutes les émissions de télé-réalité, de nombreuses scènes sur la souffrance du candidat à l'effort. Souvenez-vous de la Star Academy, on voyait les répétitions, à quel point ils se faisaient disputer par leurs enseignants, si vous vous rappelez bien, mais la Nouvelle Star, c'est exactement la même chose, et la manière dont ils réussissaient au final à améliorer leur niveau, à améliorer leur performance. Oui. Et c'était finalement cette souffrance-là, parce qu'elle était justifiée par l'effort, qui était valorisée par l'émission.
Mais ça a toujours existé, que le mérite soit valorisé par l'effort. Vous démontrez qu'en fait, la compétition scolaire, professionnelle, ne fait que s'amplifier depuis quelques années dans de nombreux pays. Donnez-nous quelques exemples.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut plus penser la compétition scolaire aujourd'hui sans penser à la marchandisation de l'économie, à la mondialisation de l'économie. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont finalement on a tout un ensemble de classements scolaires à l'école, y compris des concours en France, puis on rentre sur le marché du travail, on a maintenant tout un ensemble de d'évaluations par la performance. Donc, qu'on soit en entreprise ou en administration, on a à produire tout un ensemble de rapports, mais très régulièrement, sur nos performances. Et ensuite, on rentre chez soi, que ce soit de l'école, de l'université ou de chez notre employeur, on allume notre télé et on voit des formes...
La Nouvelle Star.
La Nouvelle Star, qui met en scène exactement
au-delà de la
même.
France, au-delà de la France, aujourd'hui, il y a une compétition, une sélection organisée ailleurs, dans d'autres pays, qui n'étaient pas présentes traditionnellement.
Alors, traditionnellement, effectivement, les formations d'élite comme Harvard, comme Oxford, Harvard aux États-Unis évidemment, Oxford ou Cambridge en Angleterre, ou éventuellement les formes de Gaokao en Chine, mettent en œuvre des formes de compétition.
Ça a toujours été.
Tout à fait. Ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a, dans la plupart des pays, des formes scolaires qui visent à la massification scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire, la massification scolaire ? C'est qu'il y a de plus en plus d'élèves qui sont concernés par l'école et donc qui rencontrent ces formes de classement scolaire perpétuel.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour rentrer à Harvard, on prend combien en pourcentage d'étudiants ? On en prenait combien il y a 15 ans ?
Alors, on prend aujourd'hui environ 5%, voire moins de 5% des candidats à Harvard rentrent effectivement en première année au Harvard College, donc première année à Harvard, alors qu'il y a 10 ans, on en prenait 15%. Pourquoi ? Parce que c'est le produit de deux logiques. À la fois, il y a de plus en plus de candidats, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent dans le système éducatif, et par ailleurs, qui participent au système éducatif, et par ailleurs, il y a des logiques marchandes purement liées à l'organisation des institutions qui font que plus c'est sélectif, plus une université est prestigieuse dans les classements mondiaux, comme le classement de Shanghai. Donc, les universités ont tendance justement à mettre en scène leur sélectivité en disant « mais regardez-nous, plus on est sélectif, plus on est prestigieux, donc venez chez nous. Donc ils ont tendance à jouer un petit peu sur ces...
Comme outil marketing, finalement.
Absolument.
Aussi comme gage de
qualité.
De qualité. Puisqu'on sait sélectionner, puisqu'on sait créer l'entonnoir, forcément, c'est que la formation est ensuite de qualité. Valérie Gauthier, oui, en quelques mots. Désirable, oui. Comment évoluent les réflexions à HEC des étudiants, du staff autour?
Quand on parle de sélectivité, il faut parler des critères de sélectivité. Et on s'aperçoit de plus en plus que dans les critères de sélectivité, la capacité à être collaboratif dans ses activités, dans ses actions et
c'est-à-dire
dans sa relation à l'autre.
C'est-à-dire à se préoccuper des autres, c'est ça?
Absolument.
Notamment
et de
avec
fédérer
des projets
du collaboratif
qui peuvent
efficace.
Être dans l'humanitaire notamment. C'est vrai qu'on est sensible dans les dossiers scolaires des étudiants maintenant, savoir ce qu'ils font et comment les autres les préoccupent.
Oui, et le sens qu'ils donnent aussi à leur choix. Et cette notion de collaboratif et la notion de projet qui y est liée est une tendance extrêmement développée. On le voit notamment dans le développement de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une action collective qui engage des personnes et pas une seule personne. Et donc, ça fédère une autre façon d'interagir. Et il y a des écoles d'ailleurs qui sélectionnent beaucoup sur cette capacité au collaboratif.
Somebody come save me for. It feels like we've met before. Somebody come get her. She's dancing like a stripper. Somebody come get her. She's dancing like a stripper. Somebody come tip her. She's dancing like a stripper. Somebody come get her. She's feeling all the liquor. Chop, it's screwed up. I'm a pothead. At your ex crib and your boot up. Take it slow, baby, we in no rush. Hennessy or Don Q, that's a very hard choice. But the diamonds on my pinky need a gang of cool points. And the drop head, make them drop dead, yeah. You ain't scared, you ain't scared, you ain't scared, yeah. Believe me, I'm Asha. You see me in action. I've heard a lot about you. Catch around blunts like a hot potato. And you dancing on the table, gushing like a volcano. Somebody come get her, she's dead. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Somebody come tip her, she's dancing like a stripper. Somebody come get her, she's feeling all the liquor.
You got girls in here, I'm a crew,
I'm a crew.
And they fine, hop the line. I've been sipping on Patron and wine. I'm just trying to have a good fucking time. I was chilling with the open container. Grab the arm, told her not to be a stranger. I was blowing on the deck with my niggas. I was looking for the girls who willing. Baby girl, if you fucking with me, then we getting bags. If you smoking with me, then we on dance. I don't fuck with local hoes, I told you that. How you moving, you deserve a couple racks.
Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Somebody come get her, she's feeling all the liquor.
Honey's on your face, baby girl, come and do that little thing that you was doing. Hey, they was in this motherfucker tripping, what the hell they think we was doing? It seemed like we fucking in this club, baby girl, what they think that we doing? You getting on my nerves with them questions, girl, you know I'm trying to start a little movement.
I ain't got no business fucking with you. The blue, you acting brand new. Washington's mean nothing to you. Same way with us.
On accueille Diderot qui nous appelle du Cameroun. Vous êtes à Penja. Bonjour Diderot.
Bonjour Emmanuel.
Diderot, vous nous avez appelé au standard parce que je crois que vous avez passé 7 fois le concours d'entrée à l'école normale supérieure. C'est bien cela, pour devenir enseignant titulaire?
D'accord, c'est ça, parce que j'ai eu le bac en 2007 et à partir de cette année, j'ai présenté ce concours sans jamais l'avoir jusqu'en 2014, l'année où j'intègre cette école. Ça a été très dur d'échouer et de se représenter à chaque fois, surtout quand je savais que à côté de moi, il y avait des amis, des camarades, parfois moins forts, moins travailleurs que moi qui réussissaient. C'était un peu frustrant.
Mais alors justement, puisque vous qualifiez par vos mots presque d'injuste ce concours, puisque d'autres moins bons que vous, moins qualifiés, réussissaient ce concours, peut-être à la faveur de la chance, je ne sais pas, pourquoi vous êtes-vous obstiné à repasser ce concours pendant 7 ans, Diderot?
C'était surtout parce que je savais intégralement ce que je valais et ce que je voulais surtout. J'étais déterminé à intégrer cette école et j'ai toujours aimé l'enseignement. Donc, ça, je sais qu'au lieu de me décourager, m'ont plutôt boosté le moral. Donc, à chaque fois que j'échouais, je travaillais plus pour essayer d'atteindre mon but. Mmh.
Vous vouliez que la société reconnaisse votre talent, en somme, puisque vous le connaissiez, votre talent.
Effectivement, passer à côté, ça c'est quelque chose qui est courant au Cameroun. Les gens monnaient pour intégrer ces écoles-là. Et puis, moi, je n'ai pas voulu le faire.
Ah, oui. D'accord. C'est-à-dire que vous n'avez pas cédé à la corruption possible. C'est ce que vous sous-entendez, c'est bien cela?
Effectivement, c'est ça. J'avais pourtant les moyens de le faire. Du moins, mon père avait les moyens de le faire, mais je n'ai pas accepté cela. Donc, j'ai dit, je vais intégrer cette école normalement et je vais travailler. Donc, aujourd'hui, je suis fier d'avoir réussi, même avec toutes ces difficultés. Et ces échecs m'ont plutôt forgé un mental de lion, un mental de gagnant, c'est ça.
Un mental de lion. Merci Diderot. Ouais. Joseph est au téléphone avec nous. Je crois que vous ne partagez pas le point de vue de Diderot, si vous avez entendu son témoignage. Vous êtes à Goma, en République démocratique du Congo, et vous êtes déçu, amer par rapport au concours, à la compétition universitaire.
Ah oui, madame, je vous salue d'abord, bonjour.
Bonjour,
moi, j'aime
Joseph.
Le concours et la concurrence parce qu'il me donne de l'énergie, du courage. Mais j'ai été déçu un jour quand je suis entré en première année de graduant en management des ressources humaines à l'université de la ville. Ce jour-là, j'avais compris que ce n'est pas toujours les meilleurs ou même les plus forts qui sont les vainqueurs. Et cela m'avait au moins démoralisé complètement.
Et donc, ensuite, vous avez laissé tomber?
Non, je n'ai pas laissé tomber, j'ai continué, je me suis bâti jusqu'à ce que j'ai terminé la première année de graduat. Mais après cette année-là, j'ai quitté l'université pour aller m'inscrire ailleurs.
Dans une autre université moins compétitive. Vous avez dit au standard, l'égalité des chances n'existe pas. C'est ce que vous pensez, Joseph,
oui.
C'est bien ça?
Et oui, justement. Et d'ailleurs, je me suis déjà rendu compte qu'il n'existait pas d'indicateurs, des mesures qui peuvent être capables de comparer des personnes d'une façon logique.
Oui, effectivement, c'est moins simple qu'un match de foot, en effet. Merci Joseph de nous avoir appelé. Très bonne journée à Goma. On laisse la parole à un autre auditeur, Daniel, également à RDC, à Kinshasa cette fois-ci. Daniel.
Oui, bonjour Emmanuel.
On vous écoute, Daniel, vous êtes en direct.
Bon, moi j'allais juste intervenir sur la concurrence et le concours. Moi, j'aimerais dire que le concours, c'est une très bonne chose, et la concurrence aussi, parce que ça nous permet de nous améliorer et de faire plus. Parce que là, nous sommes en compétition. Je vais épingler un peu une expérience personnelle. Quand j'étais au collège, en première année, j'ai fait ma première année, donc mes humanités, dans une province à l'Équateur. Et il y avait une fille, on venait tous à Kinshasa. Donc quand on était là au collège, il y avait un peu cet esprit-là de compétition. Et à tout moment, déjà la première période, j'étais le premier de la classe, lui était la deuxième. Donc il cherchait aussi à atteindre ses postes-là. Donc c'était un combat entre nous deux. Et il avait quand même...
Il ou elle?
Elle, c'est une fille.
D'accord, compétition avec une fille, d'accord.
Oui, avec une fille. En tout cas, c'était pas facile. C'était une fille très intelligente et c'était vraiment une compétition. Et ça nous a permis de nous améliorer. Donc chacun faisait cet effort-là pour être le premier de la classe. Tellement que notre compétition, notre concurrence, c'était une concurrence loyale. Donc ça créait une sorte d'amitié entre nous deux. Donc entre nous deux, bien qu'on était des adversaires, on cherchait à tout prix à occuper la première place, mais il y a quand même cette amitié qui s'est installée jusqu'à présent. Donc à présent, là, moi je suis à l'université à Kinshasa, elle est en Inde. Mais nous continuons à nous échanger tellement qu'on a eu à mettre en place une amitié vraiment intime, vraiment sincère. Et voilà, c'est grâce à la concurrence et à la compétition, vu que la concurrence était loyale.
Oui, voilà, loyal, et donc vous vous estimez l'un l'autre. Merci Daniel de nous avoir appelé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Valérie Gauthier, ces témoignages? Il peut y avoir compétition tout en ayant, en étant loyal, voire même finalement une forme de solidarité?
Oui, je pense effectivement le dernier témoignage de Daniel sur cette notion de concurrence loyale. Dans toutes ces compétitions, il y a la notion de relation qui est au cœur de tout cela. Les mots énergie, courage, progression, la capacité que la compétition fait naître chez l'individu de mieux connaître ses limites, de les dépasser, d'avoir cet engagement individuel, n'empêche pas une intelligence collective et une capacité de, à la fois en se mesurant, de fédérer une relation qui peut être très positive.
Ouais, alors, c'est pas toujours le cas. On a l'impression qu'on parle de sport, là, en fait, avec vos
exactement.
Mots.
L'analogie au sport est tout à fait pertinente parce que ce soit un sport individuel, comme on voit dans le tennis, par exemple, où on a une concurrence farouche entre un Federer et un Nadal, il y a un respect mutuel, voire une amitié qui est née entre ces deux joueurs, qui n'est pas du tout contradictoire avec la compétition lorsqu'ils se retrouvent sur le terrain. Donc, cette notion d'engagement individuel, de l'individuel d'un côté et du collectif de l'autre, pour moi, ne sont pas antinomiques. Et c'est pour ça que de créer du savoir relié, de créer la capacité à fédérer des relations constructives, positives, au-delà des différences, voire des divergences ou des oppositions, c'est aussi faire naître cette capacité à mieux se connaître et à mieux développer ce courage, cette énergie, et donc faire naître son talent.
Annabelle Alouche, sauf que pour vous, la compétition scolaire, ça n'a rien à voir avec un match de foot qui a été inventé pour qu'il y ait un gagnant, une équipe gagnante.
Alors si, évidemment, il y a de nombreux parallèles et de plus en plus de parallèles et même une sorte de mélange des genres entre compétition scolaire qu'on apprend dès la première année de maternelle ou dès le CP, on apprend à être classé, à rendre des devoirs, à être noté, à être mesuré, évalué et comparé. La note, elle permet quoi ? Elle permet d'être comparé de manière plus ou moins loyale, mais en tout cas chiffré avec l'autre, effectivement. Par contre, je m'inscris en faux sur le fait que une possibilité de compatibilité entre mise en compétition et solidarité. Je pense que les deux sont assez incompatibles, même si on peut essayer de penser à des formes de leadership comme le fait Valérie Gauthier, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la fabrique des inégalités sociales et la fabrique et l'usage de l'agressivité dans la mise en concurrence. La mise en concurrence, c'est quoi? Et on l'entendait bien dans les témoignages, c'est l'utilisation à des fins de production de l'agressivité individuelle. Alors certes, ça peut être loyal, mais c'est quand même extrêmement agressif. Certains auditeurs parlaient de guerre contre l'autre. Donc il faut avoir un certain nombre de ressources, notamment familiales et sociales, pour pouvoir aller au-delà de cette approche par l'agressivité et par la guerre. Et ce que j'entends aussi dans la parole des auditeurs, c'est à quel point ce discours, il est genré. En l'occurrence, c'est des hommes qui parlent, un auditeur parlait.
Vous trouvez que c'est un discours testostérone, c'est
absolument.
Ça finalement.
Hein. C'est un discours qui est fondé sur la masculinité, justement, l'exacerbation, la mise en valeur.
En l'occurrence, les filles se débrouillent très très bien dans la compétition scolaire aujourd'hui, tous les pays maintenant. Juste quand vous parliez de en quoi les concours produisent des inégalités sociales. Juste quand même un chiffre dans les grandes écoles, que vous avez cité d'ailleurs dans une tribune que vous co-signez aujourd'hui dans le journal Libération pour vous insurger contre le projet de sélection à l'université du gouvernement. Vous recitez ce chiffre qui est bien connu. On a 50% d'enfants de cadre supérieur dans les grandes écoles, 15% d'enfants d'ouvriers employés. Et cette proportion-là, c'est pas du tout celle de la société française, puisque dans la société française, on a 25%, donc moitié moins d'enfants de cadre, et au contraire 50% d'enfants d'ouvriers ou d'employés dans la population active.
Absolument. Ce qui est surprenant dans cette fameuse réforme de la sélection à l'université en France, c'est le fait qu'on sache que la sélection est inégale et la plupart du temps inefficace, et pourtant on ne cesse de la reproduire. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est indépassable? C'est justement cet attrait pour l'agressivité peut-être, cette impossibilité de penser l'efficacité au-delà de la sélection, au-delà de la distinction, au-delà de la reconnaissance d'un talent individuel.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. À quoi servent les concours?
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Direction la Corée du Sud à présent, un pays qui incarne de façon particulièrement saisissante cette tendance vers les sociétés du concours. L'existence de chaque Coréen est, on peut dire, rythmée par des concours à l'importance cruciale à chaque fois, à l'influence déterminante sur la vie professionnelle et même sur la vie conjugale. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors expliquez-nous en quoi consiste cet envahissement de la société du concours chez les Coréens.
Oui Emmanuel, bien en fait depuis sa plus tendre enfance, chaque petit Sud-Coréen se prépare au concours d'entrée à l'université, à grand renfort de cours privés et d'instituts de cours du soir, souvent jusque tard dans la nuit, car en Corée le niveau de l'université que vous décrochez déterminera votre carrière, votre vie professionnelle, mais aussi votre vie personnelle et conjugale, parce que les entreprises les plus prestigieuses ne recrute que dans les meilleures universités et travailler pour Samsung par exemple, eh bien c'est l'assurance d'avoir un statut social élevé et de faire un beau mariage. C'est pourquoi chaque année le pays s'arrête complètement lors des examens d'entrée à l'université. Le gouvernement demande aux employés de venir plus tard au travail pour réduire les embouteillages. Des policiers à moto emmènent les lycéens retardataires sur leur centre d'examen et les avions sont priés de ne pas décoller pendant les épreuves d'écoute d'anglais pour faire moins de bruit.
Mais il n'y a pas que à l'université, ceci dit, même le monde de la K-pop, la musique ultra populaire en Corée, est construit aussi sur ce même modèle, cette même société des concours ?
Oui, tout à fait. En fait, les maisons de disques organisent d'immenses auditions à l'échelle nationale qui attirent des centaines de milliers de candidats. En fait, c'est le début d'un long processus d'élimination qui permet de choisir les rares élus, ceux qui deviendront des stars de la K-pop. Par exemple, la semaine dernière, la maison de disques SM Entertainment a annoncé qu'elle organisera cette année des auditions dans 45 villes différentes, la majorité en Corée bien sûr, mais aussi en Chine, au Japon ou aux États-Unis. Il existe d'ailleurs à Séoul des instituts de cours du soir qui aident les candidats à préparer ces auditions K-pop. Et puis il faut aussi noter que ce processus est en fait très transparent. Les stars de la chanson sont justement aimées par leurs fans parce qu'elles travaillent dur et qu'elles se sacrifient entièrement pour arriver au top.
Et dans les grandes entreprises, ça se calme un peu ou c'est aussi une compétition acharnée du concours pour recruter ?
Eh bien c'est pareil. Et d'ailleurs, sans surprise, l'examen le plus couru, c'est celui de Samsung, qui est baptisé Samsung Aptitude Test. Il attire en moyenne 200 000 candidats par an, mais les autres conglomérats comme Hyundai ou LG ont leur propre concours. Certains voient d'ailleurs dans ces examens une façon de casser l'ego des candidats et de sélectionner en réalité ceux qui accepteront les heures de travail interminables et une culture d'entreprise de type militaire. Sans surprise, des instituts de cours du soir se sont spécialisés dans ces examens d'entreprise.
Ah oui, aussi. Est-ce que ces concours peuvent contribuer à créer une forme de solidarité entre ceux qui les préparent ensemble ?
D'un côté, c'est vrai que pour la jeunesse coréenne, former des groupes de travail, en général via Internet, pour étudier ensemble un examen spécifique, eh bien, c'est un moyen privilégié de nouer des relations sociales. Ceci dit, moi je trouve que ces concours qui déterminent de façon aussi fondamentale la vie de chacun sont surtout une source de souffrance. Quand toute votre vie est tournée vers un seul objectif, le concours, eh bien c'est difficile de s'épanouir, de se trouver d'autres centres d'intérêt. Les Sud-Coréens ne lisent presque plus par exemple, en fait ils n'ont pas le temps. Et quand on rate ces fameux examens, eh bien il n'y a aucune voie de secours, aucune branche sur laquelle se raccrocher. Par contre, ces concours, eh bien ils aident bien à encadrer la jeunesse et à la faire marcher au pas de course. Quand on passe son temps à préparer des examens, eh bien on a moins le temps pour manifester ou réfléchir à comment changer la société. D'ailleurs, pendant les grandes manifestations contre l'ex-présidente Park Geun-hye l'année dernière, beaucoup d'observateurs ont d'ailleurs été surpris de voir dans la rue un nombre significatif de jeunes qu'on croyait dépolitisés. Certains ont même parlé de mai 68 de la jeunesse coréenne, mais on a oublié que la majorité de ces jeunes ne s'étaient pas exprimés. Ils étaient bien trop occupés à préparer leur prochain examen.
Et ça n'est pas une caricature, c'est bien la réalité que vous nous décrivez là. Merci beaucoup Frédéric Ojardias pour ce tableau de la société des concours à la coréenne. Bonne journée à Séoul.
Merci Emmanuel.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Annabelle Alouche, on a pris l'exemple de la Corée du Sud, on aurait pu parler de la Chine aussi, que vous avez étudié.
C'est absolument passionnant parce que ça montre à quel point le concours est un instrument de contrôle des publics, des populations. Votre journaliste le disait très bien, pendant qu'on passe son examen, on ne va pas manifester dans la rue. C'est un instrument de contrôle politique. Et au 19e siècle, c'était... En France, c'était exactement la raison pour laquelle le concours s'est développé non seulement dans la fonction publique, non seulement à l'école, mais aussi pensons dans tout un ensemble de scènes sociales, pensons par exemple aux compétitions, aux concours.
Ouais. On appelait ça quand même l'ascenseur républicain à l'époque quand même.
Alors, pour
une forme de totalitarisme.
Alors certes, mais pour les concours de philatélie ou les concours agricoles, ça n'avait rien à voir avec l'ascension sociale. Donc l'émulation était utilisée comme un mode de gouvernement, un mode de contrôle des populations et des inciter à produire.
Mais pour la fonction publique, tout de même, c'était quand même un moyen aussi pour des classes populaires de réussir. Alors, on va parler quand même des entreprises maintenant, du marché, de l'économie. Valérie Gauthier, quelle est aujourd'hui la prise de conscience dans les entreprises sur ces formes de sélection, je dirais par rapport aux nouveaux modes de management et de leadership, de travail collaboratif, de travail en équipe, qui sont des modèles largement théorisés, puisque vous participez à ces théorisations, Valérie Gauthier.
Oui, absolument. On voit une grande évolution aujourd'hui. Si on parlait des concours, on parlait des grandes écoles, ne serait-ce qu'au sein d'HEC, quand on voit la multiplication des jeunes qui, à travers HEC, découvrent l'entrepreneuriat et ont cette vocation à fédérer en groupe de nouvelles activités, aussi l'importance de la créativité, de la culture du partage, on voit une véritable évolution qui est liée aussi aux besoins des entreprises. Le besoin d'innovation, le besoin de s'adapter au changement. J'ai eu la chance, pendant 8 ans, de diriger le programme MBA d'HEC, qui est un des programmes du groupe HEC, dans lequel il y a plus de 50 nationalités, 200 étudiants venant du monde entier. Le principe du programme est de travailler en équipe. Et c'est ce travail en équipe qui permet de se frotter les uns aux autres, aux différences des uns des autres, et en même temps d'apprendre des autres. Et en même temps qu'on apprend des autres, j'ai toujours aimé à dire que plus il y a d'écart entre des individus, plus on a de chemin à faire pour aller vers l'autre, et plus on apprend sur soi en chemin. Et c'est cette découverte de soi qui était évoquée d'ailleurs dans les témoignages précédents, le besoin de se mesurer et de progresser, ce besoin d'avancer, ce besoin du changement, il passe par une confrontation à l'autre et donc du collaboratif.
Aujourd'hui, avec l'avènement des économies numériques, les start-up, où on a l'impression que la hiérarchie n'existe plus vraiment, c'était un peu des modèles de petites entreprises complètement horizontales, est-ce que ce travail collaboratif où on est en construction les uns avec les autres va devenir encore plus essentiel ou pas ?
Oui, de plus en plus essentiel. Je travaille beaucoup avec y compris des entreprises traditionnelles qui sont en période de changement, de transition, ou pour certaines en période de crise. On voit bien que le besoin qu'ils ont, c'est de se fédérer, de créer plus de partage, de respect, d'objectifs communs. Et de ce travail ensemble naît la capacité à être beaucoup plus productif. Annabelle parlait de performance tout à l'heure. Certes, il y a la performance individuelle, mais on sait très bien que la performance est d'autant meilleure qu'elle est collective et qu'elle est fédérée par le collectif.
Au moment des primes de fin d'année dans les entreprises privées, ça ne se passe plus comme ça, ceci dit. Hein.
Le jour du concours d'HEC, il y a un classement, donc il y a un premier et un dernier.
Mais pour revenir, il n'y a pas de classement de sortie, hein, ceci dit, à HEC. Donc après, on est un peu plus tranquille pour travailler les uns avec les autres et s'aimer les uns les autres. Mais Valérie Gauthier, oui, dans le monde du travail, tout de même, il y a quand même une forte compétition aussi qui subsiste, non ?
Oui, il y a une forte compétition, mais la compétition peut être positive. La difficulté, je crois qu'on a dans ce rapport compétitif qui peut être négatif, c'est le rapport au jugement, la peur du regard de l'autre, ou cette évaluation qui est une évaluation sanction. L'évaluation peut être quelque chose de constructif. On parle de feedback, c'est un mot qui est très courant dans la capacité des gens à donner un retour à l'autre. Le mot feedback en anglais, c'est nourrir en retour. Le mot nourrir est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui doit être constructif, qui doit permettre d'avancer. Or, on est, nous, dans des environnements, et on a grandi dans nos systèmes éducatifs, dans des environnements où l'évaluation, c'est une note, c'est une sanction, c'est un jugement. C'est souvent écrit en rouge par les professeurs sur le côté de la copie. Alors qu'en fait, on a besoin de fédérer une autre forme d'évaluation qui ne devrait d'ailleurs pas porter le mot évaluation, mais qui serait plutôt un retour, un regard constructif pour aider à avancer.
Ouais,
je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens qui permettent à des initiatives parallèles dans les éducation. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet qui permet de voir des alternatives au mode dans lequel on fonctionne jusque-là.
Alors justement, j'allais poser la question à Annabelle Allouche, puisqu'elle en parle dans son livre, La société du concours. Quelles alternatives à la sélection ? Quels sont les pays qui proposent les pistes les plus intéressantes, Annabelle Allouche ?
Alors, proche de la France, le pays le plus intéressant du point de vue de l'alternative au concours, c'est sans doute l'Allemagne. Pourquoi ?
Et ultra compétitif sur le plan économique, en
et
tout cas,
ultra
avec son
compétitif
industrie.
Sur le plan économique. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est un pays où les hiérarchies scolaires ne déterminent pas complètement, en partie, mais pas complètement, l'organisation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut ne pas être bon à l'école ou ne pas réussir à l'école, s'investir dans le monde de l'entreprise et se voir reconnaître dans ce monde-là, sans avoir de diplôme, sans avoir d'examen. Ce qui permet justement des formes d'ascension sociale alternatives où on est reconnu par une institution, par un collectif, sans que ce soit l'école qui, de facto, reproduit, de par son fonctionnement, reproduit un certain nombre d'inégalités sociales.
Vous pensez, sans aller jusqu'en Allemagne, on a un exemple en France qui s'appelle l'école 42, qui fédère sur une forme de sélection qui notamment motive sur le collectif et la capacité à travailler ensemble, qui est un exemple très intéressant. Évidemment, le secteur, il forme des développeurs et des gens qui...
Au métier du numérique.
L'autre exemple qui est aussi important et dont on n'a pas parlé, c'est qu'on parle de sélection de concours pour des écoles d'un certain registre. J'ai eu la chance de découvrir au Sénégal les universités du savoir-faire qui ont été développées par l'ISM, l'Institut supérieur du management au départ, qui s'est ensuite diversifié. Dans les universités du savoir-faire, on a la capacité à se baser sur des vocations et non pas sur des concours qui vont sélectionner sur des critères étrangers à la personne, mais sur des vocations à avoir des métiers qui sont en plus des métiers extrêmement importants, comme électricien, comme plombier, mais qui vont avoir une utilité proche de besoins beaucoup plus tangibles.
Ouais, alors c'est intéressant parce que Guy vient de poster ce message, on n'arrive pas à faire, la ligne téléphonique n'est pas bonne, Valérie Gauthier, mais il nous dit qu'il est anti-concours à cause des fraudes possibles. Il dit « Moi, je veux être en compétition uniquement avec moi-même et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, je prône l'auto-emploi ».
Ouais, ben voilà, c'est un bel exemple d'entrepreneuriat qu'on voit beaucoup naître en Afrique aussi et que je trouve extrêmement riche.
Ouais. J'avais une question pour Valérie Gauthier. J'ai lu votre livre, j'ai trouvé très intéressant ce discours donc sur l'amour du prochain, la solidarité. Par contre, il me semble que c'est difficile pour un employé justement de refuser l'amour. Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer son employeur ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer ses collègues ?
Donc, absolument.
Ce discours de la solidarité, de la confiance, de l'authenticité,
dans
de l'amitié...
Dans une entreprise où on ne sait pas choisi, c'est ça ?
N'a rien à voir avec l'amour.
L'amour, c'est l'amour de son prochain. Donc
oui,
ça qui me posait question. Et peut-être la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste en fait à une sorte de discours du management qui est féminisé. C'est-à-dire d'un côté, on aurait un management masculin très agressif, viril, la compétition. Et de l'autre côté, un management très féminin fondé justement sur la confiance, l'empathie, la reconnaissance d'autrui, etc. Et il me semble qu'en termes d'inégalité de genre, on ne sort pas du fait qu'il y ait des managers femmes et des managers hommes qui ne font pas la même chose et qui n'ont pas les mêmes approches. J'aurais voulu
Je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'il y a une énorme différence entre amour et respect et que ce n'est pas du tout le même registre. Quand on travaille sur le collaboratif, on peut très bien ne pas être d'accord mais fonctionner avec. On peut très bien respecter et comprendre l'autre sans forcément l'aimer. Et je ne vois pas le rapport entre la féminisation ou la masculinisation d'une relation, dans la mesure où ce qui est important, c'est d'arriver à descendre de son échelle, on parle d'échelle d'inférence, c'est-à-dire descendre à un niveau d'écoute et un niveau de compréhension de l'autre qui est dénué de jugement ou d'interprétation.
Pour remplir un objectif professionnel, hein, bien sûr.
Exactement.
Ensemble.
Ce travail-là,
qu'à vous croire. Après, est-ce que concrètement, il y a plus de managers hommes qui ont tendance à valoriser cette approche-là ou plus de managers femmes ?
Alors ça, c'est pas une question.
Oui, allez-y, Valérie Gauthier.
Oui, je pense que c'est pas une question de valorisation, c'est une question du travail qui est fait et qui aboutit de façon tout à fait égale chez l'homme et chez la femme. Il peut y avoir quelques prédispositions, on va dire, à plus de d'écoute ou d'empathie au départ chez la femme, mais une fois que l'exercice et le travail est engagé, je peux vous dire que mon expérience sur des milliers de personnes, puisque j'ai aujourd'hui 65 000 personnes qui travaillent le savoir relié, y compris sur un MOOC, donc en digital, les retours que j'ai, ils sont absolument pas sexués. Il n'y a pas de différence de genre sur le résultat que ça engage.
Ça sera l'objet d'un autre débat, tiens, ça, justement, le genre et les concours. Merci à vous, Valérie Gauthier. Vous publiez Le savoir relié vers un leadership intuitif et relationnel chez Erol, Annabelle Alouche, La société du concours, l'empire des classements scolaires, aux éditions du Seuil, La République des idées. Merci à toute l'équipe, Sophia Bédard, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. N'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine. Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les légumes. C'est cher, c'est long à éplucher. Mais au Sénégal, des mamans vendent désormais des juliennes de légumes au marché, tout coupé, tout prêt à être cuisiné. Alors faut-il vraiment manger des légumes quand on habite en ville, loin des jardins ? On en discutera avec nos invités à lundi.